Alors donc, Madame Danielle Miglos, qui est donc professeure de littérature comparée au départ, d'où toute sa science sur beaucoup de choses, vous allez voir. Ça, c'est moi qui le dis, mais ce n'est pas dans la notice. Donc, elle a eu une agrégation à doctorat, elle a été HDR, maître de conférences, puis professeure de littérature et civilisation contemporaine à l'université de Lille 3. C'est là que je l'ai connue et rencontrée, et nous avons eu le plaisir de communiquer. Et maintenant, elle est professeure émérite, honoraire. Oui, oh ben ça, c'est pas grave.
Non, mais j'ai été émérite, mais c'est fini, quoi.
Parce que surtout, Danielle continue à s'occuper énormément de la culture à Lille, puisqu'elle s'occupe de toutes ces maisons, vous savez, dans lesquelles on va écouter des conférences avec Lise aussi. Et donc, voilà, donc une grande dame de culture, Madame Miglos. Voilà, nous vous écoutons sur rendre sensible.
Bon, je vous dirai pourquoi ce titre un peu mystérieux. Mais d'abord, merci de m'avoir invité. Et merci à ceux qui sont restés là, bien que nous soyons déjà vendredi après-midi. Donc, voilà, j'ai emprunté ce titre à Georges Didier Luberman, que certains d'entre vous connaissent sans doute et apprécient. J'en suis une grande fan, donc c'est un titre que j'ai piqué dans le dernier de ces volumes de l'œil de l'histoire, qui est Peuples en larmes, Peuples en armes. Voilà, donc rendre sensible est, me semble-t-il, le projet esthétique de Lorca, peut-être pas conscient à l'origine, bien sûr, mais je crois appliqué. Alors, en se fondant sur les approches philosophiques et esthétiques de Walter Benjamin, de Jacques Rancière dans Le partage du sensible, et aussi sur l'œuvre de Deleuze, et simultanément sur le travail artistique réalisé au cinéma, dans l'art, la littérature des années 20-30, Georges Didier Luberman considère que la frontière jadis établie entre la raison et la sensibilité s'abolit dans des productions où, je cite, « la lisibilité de l'histoire, la dialectique du symptôme nous permettent de voir, enfin, les failles, les lieux ou les moments à travers lesquels, se déclarant comme impuissance, les peuples affirment à la fois ce qui leur manque et ce qu'ils désirent ». Donc ma lecture sera une sorte de promenade, parce que la concomitance entre ce qu'il dit et les textes en vers ou en prose de Lorca y invite. Il y a une sorte de simultanéité entre ses œuvres et celles qu'étudie Didier Luberman, et j'essaie de faire une lecture de simple lectrice, et ce n'est pas de la fausse modestie, hein, pas du tout, c'est juste quelque chose qui a à voir avec le fait que nous avons fait des lectures. Nous avons effectué des lectures au cours de notre vie professionnelle qui étaient parfois contraintes. Je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas agréables, mais elles étaient contraintes. Or, j'ai essayé de me promener en particulier dans les premiers textes, en particulier Libro de Poemas, pour essayer de les lire comme si je les découvrais, ce qui est un grand désir. Il y a ici M. Larraz, d'autres personnes qui ont beaucoup travaillé sur les avant-gardes, savent que c'est ce grand désir adanique de découvrir les choses, d'aller à la source. Alors donc je vais essayer de faire, parce que je l'ai été réellement en les relisant, ce qu'on fait quand on a un regard ému au sens que lui donne aussi Georges Didier Luberman, c'est-à-dire, je le cite, dans le double sens d'une émotion et d'une mise en mouvement de la pensée. Et c'est un accompagnement du texte lorquien, bon, au gré des œuvres complètes que, enfin, je peux vous rassurer tout de suite, je ne vais pas aborder ici intégralement. Nous avons d'autres berceuses à entendre. Donc, en 1920, il écrivait dans le poème Belletta, Girouette, n'est-ce pas, le premier du livre de poèmes. Alors là, je suis quand même obligée de vous le dire en espagnol, parce que je l'ai traduit par amoir, et c'est mi alma. Mario, estamos gozo. Je ne sais pas comment tu traduirais al Mario. Enfin, là où est mon âme, il y a de la mousse et j'ai perdu la clé. Les choses qui s'en vont ne reviennent jamais, jamais. Enfin, ce jamais, je crois, le second, j'emprunte à Baudelaire, là. Excusez-moi, justement parce que j'ai parlé du signe dans une seconde. Donc, ne reviennent jamais, tout le monde le sait. Ce qui peut se lire, à l'évidence, comme l'expression d'une nostalgie pour ce que Baudelaire disait, n'est-ce pas, ce qui ne se retrouve jamais, jamais dans le signe, mais aussi d'emblée, et c'est là que la démarche esthétique de Didier Berman m'a particulièrement semblé pertinente, comme un constat digne d'être regardé en face. C'est-à-dire que le vent du sud, le vent du nord dans le poème arrive, mais il est trop tard, il est vain de se plaindre. Les esthétiques du passé à peine abolies sont soumises au mouvement. C'est pourquoi, dans un autre poème, l'escargot aventureux ou aventurier amène poulet et l'eau, entend de vieilles grenouilles déplorer, ces chants modernes, murmurait l'une d'elles, sont inutiles, tous. Moi, je ne chante plus. Donc, faut-il chanter encore, même si, ou parce que, personne n'écoute ce chant ? La même question sera suggérée dans un autre temps et dans un autre espace, dans Le poète à New York dont tu viens de parler. L'aurore vient et nul ne la reçoit en sa bouche, parce qu'ici, aucun demain, aucun espoir n'est possible. L'escargot du poème du Libro de Poemas sait que le sentier n'a pas de fin. Et ce mot polysémique signifie, bien sûr, absence de terme et aussi absence de finalité, non infinie, dans un contexte où cet escargot ne suit pas le conseil des grenouilles qui l'ont envoyé prier à l'église. Si la communion eucharistique est une illusion, illusion au sens freudien du terme, en 1920 déjà, l'escargot renonce aux étoiles, reste dans le monde qui l'entoure, saisi par une métaphysique et une esthétique du présent qui le laisse étourdi et inquiet. Il regarde le paysage, donc l'insistance sur le regard. Aucune voix n'est perceptible non plus dans le poème suivant, mais mon sentier se perd dans l'âme de la brume. Ce poème automnal est tout à fait d'accord avec toi sur le décalage des saisons, hein, bien sûr, qui est écrit en 1918, recueille l'écho de toute la poésie espagnole ou française. Tu as parlé de Verlaine, il est évident qu'il y a un rapport avec cette poésie. Et il pourrait se lire comme une variation sur des thèmes post-romantiques, une variation démodée en somme. Mais je choisis d'y lire, puisque la suite du poème le permet, comme une angoisse sincère et presque naïve devant la destinée de toute chose, de toute entreprise. Et il dit « La neige aura-t-elle fondu quand la mort nous emporte ? Ou y aura-t-il une autre neige et d'autres roses plus parfaites ?» En ce monde, en un autre, hypothétique, y a-t-il place pour la survivance ? Survivance qui est un des concepts les plus chers à Didier Berman. Je vois qu'il y a des lecteurs qui l'empruntent bien sûr à Abby Warburg pour les personnes qui auraient aussi lu les textes de Abby Warburg. Et si la mort est la mort, qu'en sera-t-il des poètes, dit-il, et des choses endormies dont personne aujourd'hui ne se souvient ? La survivance, qui se dit en allemand Nachleben, est un mot donc très cher à Abby Warburg, et d'autres chercheurs se sont employés à ne pas laisser cette notion dans l'oubli. Ces mots signifient, tels que la survivance, que les formes de la sensibilité résistent au temps et à l'obsolescence, qu'elles dialoguent entre elles, pour peu qu'il y ait bien sûr quelqu'un pour les percevoir, c'est la seule condition. Le poète peut donc verser des larmes en 1920, elles en rejoignent d'autres au travers du temps, même s'il s'agit d'un temps inscrit dans l'écriture, écriture qui devient un présent sans fin, plus réel que le réel, dont nous ne savons pas réellement ce qu'il est, hein, surtout si nous nous fondons sur la psychanalyse, je crois. Donc dans une chanson en mode mineur, écrite en 1918, donc exactement, hein, simultanément à la période où certains de ses contemporains et futurs amis de la Récy étaient ultraïstes, c'est 1918, hein, il disait « Moi, je m'en vais pleurant, en Verlaine, hein, moi je m'en vais pleurant dans la rue, mais attendez la suite, grotesque et sans solution, d'une tristesse de Cyrano et de Quichotte, rédempteur d'impossibles infinis au rythme de l'horloge. » Si les armes esthétiques dans le livre de poèmes sont encore les larmes d'un dieu amour qui pleure, je cite, comme un enfant abandonné, si le ton reste élégiaque, la voix d'un poète qui s'avoue intranquille, intranquillo, donc un adjectif si cher à Pessoa, hein, comme nous le savons, et simultanément, exactement en même temps, et c'est là où on trouve les deux cara de la misma moneda, hein, la joie et l'exaltation, l'enthousiasme et la mélancolie, qui sont inséparables peut-être, enfin bon, je risque ça, déclarait dans les chants nouveaux, j'ai soif de parfum et de rire, soif de chants nouveaux, sans lune et sans lys et amour morte. Et je cite encore, d'un chant qui aille à l'âme des choses et à l'âme des vents et qui repose enfin dans la joie du cœur éternel. Alors le mot cœur, j'ai écrit ça avant de t'entendre, et le cœur de presque tous les poèmes du recueil. Cœur, cigale, cœur nouveau, éternel, cœur membrillo, coin, immense ou trop petit, chico, hein, trop incertain pour contenir ce qu'il ressent et qui le trouble. Et qu'il déclare ainsi, hier est fané, la souffrance et le chant funéraire du souvenir. Plus encore, avant-hier, et ce qui est mort, tanière d'idées moribondes. Si la poésie ne s'écrit pas, ou plus, avec la mélancolie ou la nostalgie, sans être tiraillée entre la survivance du passé, toujours présente, et la soif d'un avenir qui exige de faire peau neuve, qu'en est-il ? Hein, alors, et je vais citer ce qu'il dit après, « Mon cœur, comme un serpent, s'est dépris de sa peau. » Or, quand on lit le dernier livre très gros, vous savez, chez Quarto, de Starobinsky, que vous devez tous, surtout nous les étudiants, faire semblant d'avoir lu, qui s'intitule « La beauté du monde », il a 1200 pages, je crois, c'est dans le tourment et l'holocauste intérieur que le poète abolit sa première parole, réduit le monde au silence pour le retrouver dans un langage régénéré. Cette mue permettent à la conscience de se saisir comme pouvoir universel. La création ne se distingue pas désormais du mouvement par lequel la personne du poète se déprend et se transmue. Devenue aventure impersonnelle, un grand nombre de critiques, et pas seulement des poéticiens, ont parlé de cette question de l'impersonnalité de l'écriture, n'est-ce pas ? Devenue aventure impersonnelle, la poésie ne peut pas non plus s'écrire pour lui à partir d'une foi, d'une espérance en l'au-delà de ces choses infimes et émouvantes. Il dit « Chaque pierre dit « Dieu est très loin ». La peau neuve du poète est douloureuse, elle n'est pas coutile, elle n'est pas tannée, résistante, comme un tapis de soleil. La douleur est celle très ancienne de la poésie, mais aussi celle du mélange de sentiments qui se croisent sans que la joie l'emporte sur les larmes, ou la vérité sur le mensonge, comme l'exprime la fin de ce poème, qui aura un écho dans le poème Confucion, où le poète en vient même à douter de n'exprimer que sa propre voix. Son lyrisme est dépersonnalisé, au point d'être peut-être la voix de son frère, dit-il, ou de son double, ou un dédoublement qui la démultiplie. Et il dit « Je me vois au crépuscule et un fourmillement de gens marche dans mon cœur. » Être traversé par la voix de tous, exprimer le cœur collectif du monde, des hommes et des femmes humbles, voués à un destin tragique comme ce théâtre Le Monde, donner voix aux animaux, aux plus petits, aux moins visibles, aux plus méprisés pour leur faiblesse ou pour leur âge ou la répulsion qu'ils inspirent, entendre et transcrire le rythme du vent, des déserts andalous sans fleurs et sans plantes nourricières, comme dans Noce de sang par exemple, semble être déjà le désir du poète dans le livre de poèmes où point aussi, du verbe poindre, l'angoisse qui rappelle celle d'Oulamouno qu'il cite d'ailleurs, devant la finitude, angoisse qui s'exprime ainsi, toute ma souffrance sera-t-elle perdue, mon Dieu, comme est perdu le doux son des frondaisons, où puiser les rythmes aussi anciens que nouveaux, quelle est la source ? Le poème intitulé « Source » expose le poète à une situation à la fois très ancienne et très neuve. « Je m'incrustais dans le peuplier centenaire, avec tristesse et appréhension, telle, au masculin, une Daphné virile, au féminin, qui fuit craintive, et un Apollon d'ombre et de nostalgie. Mon esprit se fondit dans les feuilles, et mon sang devint sève. » Une voix l'appelle et lui dit « Sois rossignol !» C'est alors qu'il perçoit des rythmes ignorés, mais les rythmes insoupçonnés. Le partage du sensible ne sont jamais acquis. Mon cœur, dit-il, voit son idéal très éloigné et demande « Mon Dieu, mon Dieu !» Mais mon Dieu à qui? Qui est mon Dieu? Pourquoi ressentons-nous l'échec lyrique quand les yeux se ferment en se lançant dans l'azur? La voix qui invitait le poète à être rossignol était, je cite, « perdue dans la distance morte ». Son appel, son injonction demandait implicitement une constance, une espérance dans l'écriture, une écriture qui ne pouvait plus avoir recours seulement aux sources mythologiques ou romantiques ou même modernistes. Personne ne viendrait lui dicter ses poèmes, ni Dieu, ni source mystérieuse et cachée. À la fin du livre de poèmes, en revanche, le satyre, le bouc, le diable, mais ce n'est pas si simple, l'invite à écouter le coq qui lui dit « Salut !» au passage. Or nous savons que ce coq aura une existence éphémère mais féconde lors de la fondation d'une revue d'avant-garde qui emportera le nom et les couleurs dans la revue El Gallo, le coq. Donc n'oublions pas que Don Alambro, précurseur de la revue, déclarera en 1928, date intéressante par rapport au Vancello Pitano et à ce qu'exprime aussi Buñuel et Dali, donc il déclara qu'il haïssait le typique, le pittoresque et tout ce qui relevait d'un, alors j'ai traduit, d'un affichage authentiquement identitaire pour parler comme aujourd'hui, et en espagnol c'est a marcha castiza o costumbrismo. C'est-à-dire un peu ça, en plus ancien. Oui, si tu n'es pas d'accord.
Non,
tu...
Je pine du chef.
Donc, après impression et paisarques, impression et paisarques, le vert de l'orca ne se voudra plus désormais seulement le vert azur, le vert bleu, le bel soit saoul, en souvenir de Rubén Dalí. Il ne sera pas non plus le vert rouge des tu vois, je ne t'avais pas lu, hein, le vert des rouges des larmes de sang d'une Andalousie toujours en larmes, pas plus que le vert empreint de teintes automnales, mais plutôt dans le poème du chant profond ou dans les chansons graphiques, comme nous le disons ordinairement, pour suggérer la dominante noire ou blanche, comme celle des touches d'un piano, dont nous savons combien il était virtuose, sans pour autant exclure la couleur tant qu'elle n'est pas locale. Vous savez, cette couleur locale, si chère à Bécassine, qui cherchait en vain la couleur locale, je ne sais, elle est peut-être blanche et bleue.
Hein, non, ça, c'est la vierge mélancolique.
Oui, oui, mais justement, peut-être que sa vraie couleur, c'était du lieu. De son lieu, mais enfin, mais ça c'est autre chose. Donc libéré d'un chromatisme attendu et référentiel, le vert déploiera ses plumes en s'appuyant sur la force que lui donneront de plus en plus ses amis de la récit, y compris si jaloux et à mon avis un peu sourd, il se refuse à entendre le Romancero Gitano comme une œuvre plus audacieuse à bien des égards que la leur, souvent tributaire à cette époque-là du désir de plaire. Je me réfère à Buñuel et Dalí qui voulait à tout prix être reconnu à Paris, le seul lieu où il y avait de l'esprit à l'époque, et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour cela. Donc l'audace, en effet, et là je parle un peu sérieusement, devrait être la seule position peut-être esthétique de tout avant-gardiste qui se déclare comme tel, c'est-à-dire l'esthétique du risque, hein. Et celle de Lorca s'exprime de manière très discrète dans des textes qui ressemblent plus à des poèmes en prose qu'à des impressions de voyage. Alors par exemple la Castille, si cher à la génération qui l'a précédée et si souvent idéalisée, lui inspire un mélange de nostalgie et de mélancolie dont il se souviendra dans sa conférence sur les berceuses. Un peu, il dit, un peu lassé de cathédrales, de pierres mortes, de paysages remplis d'âmes, je me suis mise à chercher les éléments vivants, durables, où le moment n'est pas gelé, qui vivent un présent tremblant. Car Avila est pour lui, et je ne vous parle pas de l'Escorial qu'il déteste, une ombre de grandeur morte partout. Il faut oser le dire, ceci dit, hein, si vous avez déjà essayé de dire à des hispanistes que vous trouvez que l'Escorial c'est absolument lugubre, vous obtenez la même chose que toi quand tu parles du Dogon. Donc, pas à tous, pas à nous bien sûr. Donc, la médiocrité des sculptures religieuses le blesse aussi sans cesse. Saint Côme et Saint Damien sont deux poupées au visage stupide. Et quand les figures sculptées qu'il voit dans ses voyages expriment enfin quelque chose d'une intériorité, seule susceptible de retenir l'œil du poète, c'est la terreur d'être brûlé vif ou enfermé pour toujours dans une obscure prison. Il en déduit que si dans la mort de toute chose, l'âme a quelque chance de rester vivante, c'est que nous, nous donnons forme à l'esprit des choses. Forme par le poème, l'écriture. Oui, mais dans un pays où être poète est matière à dérision, dit-il. Comme le dira Cernuda après lui et tant d'autres poètes espagnols, mais aussi d'autres pays. Hein. Car le Castille n'est pas le seul lieu où tout renvoie à la tragédie ou à l'écroulement. Dans l'Albaïcine, il voit des femmes assises, tragiques, abêties, au regard provoquant, et ressent une sorte de malédiction orientale. Même dans les jardins, où pourtant se présentent des contrastes presque baroques, le souvenir de couleurs et de mouvements, qui lui plaisent, c'est encore l'écroulement intérieur qu'il éprouve, l'écroulement irrémédiable des certitudes esthétiques, de toute certitude qui lui dévoile la superstition cachée dans les rituels, une illusion, désir de conjurer ce qui ne peut pas l'être, car la religion, d'après lui, et pour les moines et religieuses, les adeptes de ces rituels, avant tout, un refuge contre la vie et les tentations qu'elle présente, une garantie dérisoire d'échapper au péché de chair sans la moindre spiritualité. Et il dit, dans toute l'Église palpite un grand échec sentimental. Mais en Galice, l'abattement du poème se transforme en désir que s'écroule cet édifice protecteur qui empêche toute expression de charité ou de fraternité. Et exactement comme l'a dit Pilar ce matin dans un morceau de cette citation que je vais faire, peut-être un jour, prenant pitié des enfants affamés et face aux graves injustices sociales, la porte s'écroulera-t-elle sur une commission municipale où abondent les bandits en redingote et en les écrasant fera-t-elle une belle omelette, si nécessaire en Espagne. Pourtant, sauf chez Mariana Pineda, personnage essentiellement caractérisé chaque fois qu'il s'y réfère par son amour de la liberté, la révolte des mères aurait tendance à consolider l'ordre patriarcal plutôt qu'à favoriser l'émancipation de leurs filles, ce qui démontre combien leur aliénation est enracinée et presque irrémédiable. Mais la révolte de Rosita, ou celle de Yelma, de nombreux personnages féminins de son théâtre, ce ferment de retournement des choses est le signe que la sensibilité du poète habite toutes les formes de sa création pour éveiller celle de ses récepteurs. Et à mon avis, avec d'autant plus de force subversive qu'elle ne s'exprime jamais sous forme didactique ou péremptoire, mais dans le dialogue des consciences, de manière souvent elliptique, dans une économie d'empathie discrète. Il faut lire ses entrevues et déclarations de 1928, comme tu l'as fait d'ailleurs, pour y trouver des déclarations telles que « Je crois que le fait d'être de Grenade m'incline à la compréhension sympathique des persécutés, du gitan, du noir, du juif, du morisque, que nous portons en nous », c'est-à-dire non pas eux et moi, l'autre, mais nous. En 1933, s'il vise un art, je cite, « dépouillé, doté d'une vision et d'une technique en décalage avec la simple spontanéité populaire », il n'oublie jamais de se déclarer en même temps anarchiste, pas forcément en ayant incarné, n'est-ce pas, mais attaché, anarchiste et attaché à sa profession de foi artistique. Un signe de cet engagement qu'il a toujours protégé de la tentation d'écrire des vers de mirliton à la gloire de tel ou tel meneur politique ou d'une idéologie qui aurait été sacralisée, voire idolâtrée, c'est, à mon sens, sa mission pédagogique humaine dans la baraque, quand il sillonne les routes les plus diverses de l'Espagne pour y montrer le théâtre espagnol du siècle d'or à un public qui n'en avait aucune connaissance. Et il dit, notre public, ce qui compte vraiment, ce qui capte vraiment l'art théâtral se situe aux deux extrêmes. Les classes cultivées qui ont fait les études universitaires, ont une formation intellectuelle ou artistique spontanée, et le peuple pauvre et plus rude, vierge de toute contamination, terrain fertile à tous les frémissements de la douleur et toutes les nuances de la délicatesse. Donc, et j'ai fini parce que je crois que j'ai abusé de...
Non. Donc,
une question singulièrement utile à la lecture des œuvres créées dans la même temporalité que celle de Lorca, qui n'exclut pas des temporalités hétérogènes et posées par Didier Berman, loin de toute labellisation ou appellation contrôlée de ce que pourrait être l'avant-garde. Et il dit ceci, la transgression avant-gardiste n'en passe-t-elle pas souvent par une mémoire, voire une réactualisation de l'archaïque ? Dès ses premiers textes en vers, en prose, il ne cesse de pratiquer ce qu'il disait de Góngora. Sa sensibilité lui plaça un microscope dans les pupilles. Car il sait que le duende qu'il définit comme un mystère magnifique qu'on doit chercher dans la dernière demeure du sang, n'est-ce pas, réside dans le constant baptême des choses récemment créées, auxquelles je me référais tout à l'heure, perceptibles seulement si on reste aux aguets de ce qui advient, sans congédier pour autant tout souvenir. Or le poète, ne disait-il pas, tu sais que je comprends la chair infime du monde. Sensible à la douleur des femmes, comme tu l'as si bien dit, des gitans, des gens humbles et invisibles, comme des petits animaux cachés dans les feuilles et les bois pour échapper provisoirement à leur destin, le poète soulève le couvercle pour employer la formule de Didier Berman, et je vous invite à aller voir à Paris, au Jeu de Paume, l'exposition Soulèvement qui soulève vraiment la sensibilité. Il soulève le couvercle et il rend visible les hétérotopies chères à Foucault, n'est-ce pas, et fait ainsi œuvre d'historien en rendant représentable, je cite, ce qui se trouve réprimé dans leur représentation traditionnelle, ou pour mieux dire, conformiste. Il a rendu sensibles ses contemporains en payant le prix cruel que nous savons, nous qui restons peut-être plus que jamais aujourd'hui, hélas, sensibles à sa parole.
Tu as l'art que je n'ai pas de faire tout. Parce que moi j'ai sauté du début à la fin, tandis que toi t'as suivi.
Ça c'était
très très fort. Non, si, parce que je veux dire que c'est pas facile de suivre les œuvres depuis la première jusqu'à la dernière, comme ça on a l'impression de facilité, mais ça saute. Non, et c'est vrai que c'est une très bonne manière et très belle manière de nous montrer à quel point, effectivement, nos yeux se mouillent à chaque fois qu'on lit quelques moments que ce soit de l'autre. Merci beaucoup Daniel de cette
Merci
belle
vous.
Alors, Pilar n'étant pas revenu, Saragosse va